va faire ensemble un petit effort, peut-être même un gros effort d'imagination. On va essayer d'imaginer ensemble ce que pourrait être un homme parfait. Un homme parfait, qu'est-ce que ce serait ? Un homme au-dessus de tout soupçon, en qui on ne trouverait aucune fraude, un homme étranger à toute intrigue, tout orgueil, toute envie, toute jalousie, toute mesquinerie, un homme au jugement juste, fiable, au discours sincère et sans détour, un homme très probablement tel que tous les autres hommes se flatteraient d'être son ami, son meilleur ami. Les hommes politiques pourraient se revendiquer de lui, les juges de sa justice, les gens du spectacle, on peut imaginer des tas de choses, multiplieraient des films à sa gloire, des pièces de théâtre, des chansons qui vendent ses mérites. Et nul doute qu'on assisterait à une véritable déferlante de livres, de brochures sur sa vie, sur ses pensées, son œuvre. Et à notre époque, bien sûr, toutes les pages d'accueil des fournisseurs d'accès à Internet afficheraient en gros caractères accompagnés de photos. Toutes ces dernières actions seraient mises en avant et portées à la connaissance de tous. Il serait l'invité d'honneur des plateaux télé, des conférences publiques et de tous les débats qu'on peut imaginer. Toutes ces paroles seraient analysées, décortiquées, et on irait même jusqu'à commenter ce qu'il n'a pas dit, hein, puisque je ne sais pas si vous avez remarqué, mais après, lorsque un homme politique intervient, un homme d'État intervient à la télé, après on passe beaucoup plus de temps à dire tout ce qu'il n'a pas dit. Nul doute que cet homme-là, à cet homme-là, le monde entier réserverait un accueil des plus chaleureux. Il n'y a pas de raison de penser qu'il en soit autrement. Lequel d'entre nous ne voudrait pas d'un ami parfait ? Quelle aubaine ! Mais quelqu'un, je n'ai pas retrouvé l'auteur, mais ça m'a paru fort juste, quelqu'un a écrit ceci. Les hommes s'imaginent que s'ils rencontraient un individu parfait, ils l'aimeraient et l'admireraient. Ils se flattent de détester les hypocrisies de ceux qui se disent chrétiens et n'ont pas leur croyance en elles-mêmes. Mais ils oublient que lorsque parut un homme réellement parfait, le Fils de Dieu lui-même, il fut haï et mis à mort. Et oui, parce que le problème avec un homme parfait, c'est précisément que c'est un homme parfait. Pas moyen de le corrompre, il reste d'une droiture sans faille et sans doute un peu trop rigide. Il ne s'associera pas avec vous dans quelque complot que ce soit, il coupera court à tout ragot, ne faussera pas sa déclaration de revenus, ne fera pas d'excès de vitesse, rendra à l'État ce qui est à l'État et à Dieu ce qui est à Dieu. Pas moyen d'éveiller en lui le moindre désir de vengeance. Il reste sourd aux malentendus, inaccessible à toute forme de médisance et de calomnie. Et surtout, peut-être c'est ça qui est le pire, lorsque ses paroles de justice et de sagesse tombent, elles ne font que souligner notre imperfection. Même quand il se tait, la pureté de ses actes met en lumière l'impureté des nôtres. Sa sagesse met en lumière notre folie. Sa justice met en lumière notre péché. Voilà quel est le problème avec un homme parfait. Tout en lui, tout, ce qu'il est, ce qu'il dit, ce qu'il fait, son attitude, ne fait que rappeler notre imperfection et notre culpabilité. Et s'il y avait une chose que les hommes ont en horreur, je pense qu'on l'a tous vécu, c'est un sentiment très désagréable que le sentiment de culpabilité. Et pour en juger, bien sûr, nombre d'ouvrages dédiés au refoulement de ce sentiment ont été écrits. Voilà ce que cela impliquerait de côtoyer un homme parfait. Une remise en question profonde de tous les pans de la vie, une mise à plat de nos valeurs de manière radicale. Bien sûr, vous savez de qui je parle, et vous savez que cet homme a existé. Et voici ce que cet homme parfait nous déclare dans l'évangile de Jean. Au chapitre 15, jusqu'au verset 17, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jésus fait de nous ses amis. C'est ce qu'il nous dit ici. C'est la bonne nouvelle de la journée qui nous est dite ici. Voilà. Mais ça pose quand même un petit problème parce qu'on conçoit bien l'amitié qui peut exister entre deux personnes humaines, l'amitié réciproque de deux personnes qui partagent la même nature. Mais comment concevoir l'amitié quand un abîme aussi profond règne, sépare l'homme pécheur du Dieu saint, l'homme mortel du Dieu éternel? Pourtant, c'est ainsi. Dans sa grande sagesse, Dieu désire faire de nous ses amis. Et c'est marqué très clairement ici. Mais il associe cela immédiatement à une autre déclaration. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, mais moi je vous ai choisi. Alors, peut-être que ceci, finalement, ça a un côté un peu réconfortant, je dirais même relaxant. Et là, c'est la deuxième bonne nouvelle de la journée. Nous n'y sommes pour rien. C'est lui qui le veut. Loin de produire en nous un sentiment de supériorité, d'orgueil ou autre, prenons-le pour ce que c'est simplement, c'est la volonté souveraine du Dieu éternel et parfait, de faire de nous ses amis. C'est sa volonté. Et donc à ce titre, c'est une occasion de moins de se glorifier. Et Jésus termine cette première partie du texte qu'on va étudier par le verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres, qui se reboucle, vous l'avez remarqué, avec le verset 13, avec le verset 14, pardon. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. On peut y trouver un parallèle avec le texte qu'a évoqué Samuel la semaine dernière, hein, quand il a parlé d'une autre père. Pardonne-nous comme nous pardonnons aux autres, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On a un peu un parallèle, c'est-à-dire que le salut n'est pas mis en cause ici, hein, mais c'est le lien. Si nous négligeons ce commandement d'aimer, nous aimer les uns les autres, c'est le lien d'amitié qui nous lie avec Jésus qui se trouve rompu. Vous faites mes amis, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. En préparant ce passage, j'ai un peu fouillé les citations qui pouvaient exister sur l'amitié, les amis. Alors là, on en trouve des à l'appel. Et au milieu de toutes celles qui disent qu'il vaut mieux se méfier de ses amis que de ses ennemis, ou qu'il vaut mieux un bon ennemi qu'un mauvais ami, hein, ce genre de citation, vous en trouvez à l'appel. J'en ai retenu une quand même qui m'a paru, bien qu'elle ne soit pas biblique, mais qui m'a paru tout à fait intéressante, qui dit « Un ami, c'est quelqu'un qui sait tout de toi et qui t'aime quand même. Hein? » Un ami, c'est quelqu'un qui sait tout de toi et qui t'aime quand même. Jean, l'apôtre Jean, donc l'auteur de ce texte, se définit à plusieurs reprises comme le disciple que Jésus aimait. De se poser la question, est-ce que Jésus l'aimait vraiment plus que les autres disciples? Ou alors, Jean a-t-il peut-être plus perçu à quel point Jésus l'aimait? Ou simplement l'a-t-il peut-être plus exprimé? Mais ce dont on est sûr ici, c'est qu'on a le témoignage d'un homme qui a vécu une amitié profonde, sincère, étroite avec son Seigneur. Un autre Jean, Jean-Baptiste, qui a peu côtoyé Jésus sur la terre, il donne pourtant, lui, le témoignage d'une relation profonde qu'il a entretenue avec Jésus. Il dit de Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Évidemment, c'est une allusion en premier chef au message prophétique qu'il fait sur son rôle de préparation du chemin du Seigneur avant la venue de Jésus et chemin qu'il conduira ensuite à s'effacer devant lui. Mais là-dedans, il y a aussi tout un programme personnel pour lui, pour nous. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Une parole qui peut faire froid dans le dos, hein. Il faut qu'il croisse et que je diminue, ça peut faire peur, ça peut effrayer si on n'en saisit pas bien le sens profond. Est-ce qu'il faut y voir un renoncement à sa personnalité, une démission à ses responsabilités? Ou alors, plus pervers, un discours convenu empreint de fausse modestie, un peu comme ces personnes qui répètent à longueur de journée qu'elles ne valent pas grand-chose et qu'elles ne savent rien faire, mais qui en fait, en parlant ainsi, concentrent sur elles l'attention des autres. Il faut qu'ils croissent et que je, ego, hein, le mot ego, diminue. Ego, le mot grec, qui a donné égoïste, égocentrique. L'autre jour, Guillaume disait avoir trouvé une définition de l'égoïste. Et je vous le livre, c'est un petit peu drôle. L'égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Je pense que vous avez perçu la nuance. Il faut qu'il croisse, Jésus, et que ego diminue. Le moi, ce qui est exacerbé en moi, tout ce qui prend la place que Dieu voudrait occuper. Le moi hypertrophié. C'est l'expression d'un désir profond de ce que Jésus grandisse en moi, et non pas à la place de moi, bien sûr, et encore moins à mes dépens. Et c'est ce qui différencie Jésus d'un chef de secte. Jésus grandit en moi, voilà, et non pas à mes dépens. Jésus nous invite à devenir ses amis et à bénéficier d'une intimité qui va progressivement nous amener à voir les choses avec son regard, à étalonner nos valeurs sur les siennes et à peser nos choix à son aune. Troisième exemple que je prendrai d'une personne qui a vécu dans l'amitié avec Dieu, l'amitié qu'il entretient avec son Seigneur, c'est Moïse. Et pour ça, je vous demanderai, pour ceux qui le veulent, d'ouvrir vos Bibles, sinon on va le lire. Nombre au chapitre 11. Et les versets 4 à 6. Et puis ensuite, à partir du verset 10. Nombre 11, verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire : qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Ensuite, on a une petite description, versets 7 à 9, de ce qu'est la manne. Et on passe au verset 10. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Ou prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. Je vais dire, Philippe, il a pété les plombs, je ne vois pas le rapport avec le passage. Alors le rapport que moi j'y vois, c'est que Moïse a une relation vraie avec Dieu. Qu'est-ce qu'il dit, Moïse? Il dit, Dieu, je suis fatigué. Hein, c'est ça qu'il dit. Dieu, je suis fatigué. Dieu, j'en ai marre de ce boulot que tu m'as donné. Voilà ce que dit Moïse. On n'est pas du tout dans le discours convenu de la fausse confiance en Dieu. On n'est pas du tout dans les phrases toutes faites et bien formatées de notre jargon évangélique. Et il est dit que la colère, au verset 10, que la colère de l'Éternel s'enflamma fortement sur le peuple, probablement à cause de sa mauvaise foi qui peut exprimer. On mangeait en Égypte, on mangeait de la viande, on mangeait du poisson, des légumes, et on en avait plus qu'on en voulait. Ça, c'est la mauvaise foi, hein, on est bien d'accord. Alors que donc cette colère s'exprime face à cette mauvaise foi, la colère de Dieu, envers Moïse, l'attitude de Dieu est toute différente. Il est patient, il est bienveillant. Et Dieu recueille la plainte de Moïse, qui, à défaut d'être légitime, est sincère. Elle n'est certainement pas légitime, mais elle est sincère. Et Dieu l'accueille avec bienveillance. Versets 16 et 17, on ressent suite à ça la réponse à la plainte de Moïse, la réponse de Dieu est pleine de patience et bienveillance. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation. » Et qu'il se présente avec toi. Je descendrai, et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Et puis ensuite, Dieu explique qu'il va donner de la viande au peuple, comme il le demande, et même plus qu'il en demande, ça va leur sortir par les trous de nez, je ne sais pas si l'expression... qu'on a aujourd'hui, sortir par les trous de nez, vient de là, mais moi, ce que j'ai dans ma traduction, c'est jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines. Hein, c'est-à-dire que non seulement vous allez en avoir, mais vous allez en avoir plus que vous pourrez en manger. Et de nouveau, Moïse revient à la charge. 600 000 hommes de pied, verset 21, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande. Et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs de sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'ils en aient assez? Moïse est dépassé parce que Dieu envisage de faire. Et il le dit, c'est presque un défi qu'il lance à Dieu quand il parle ainsi. Mais en fait, il applique... Bien avant l'heure, le texte de Malachie, que nous connaissons bien, hein, « Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Et de nouveau, verset 23, la réponse de Dieu est pleine de bienveillance. L'Éternel dit à Moïse, « La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. » La réponse de Dieu est pleine de bienveillance et de patience. Et la suite du passage, vous pourrez le lire, est très importante. Très importante. Moïse obéit. Il a protesté. certes, de manière sans doute illégitime, mais il n'a rien caché à Dieu des sentiments de son cœur. Il les a fait connaître à Dieu, il les a exprimés, mais il obéit. Et d'ailleurs, on voit que même au plus fort de son découragement, hein, quand il dit à Dieu, tue-moi, il s'en remet quand même à Dieu parce qu'il demande à Dieu de le tuer. Il n'est pas là à envisager la fuite ou même de se suicider lui-même, hein, d'échapper de son propre fait à Dieu. Non, il s'en remet à Dieu et il n'est pas dans ses intentions de désobéir. Peut-être que là est la raison, qui sait, de la patience et de la bienveillance de Dieu. Mais quel serviteur parlerait ainsi à son maître, comme Moïse parle à Dieu, hein, vous imaginez? C'est ici qu'on prend la mesure de tout ce que de la phrase de Jésus, je ne vous appelle plus serviteur, que nous avons lu, je ne vous appelle plus serviteur, je vous ai appelé ami. Et bien sûr, la notion de service et d'obéissance, même après la venue de Jésus dans le Nouveau Testament, reste, elle demeure. Elle est bien présente, mais Jésus l'enrichit, cette relation de service et d'obéissance, Jésus l'enrichit complètement d'une relation d'amitié qu'il désire entretenir avec nous. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Une relation privilégiée avec son Seigneur dans l'obéissance. Juste une petite phrase, peut-être de précaution avant d'aller plus loin. Dans mon enfance, un catéchiste disait qu'il se sentait la liberté de dire à Dieu qu'il n'était pas très raisonnable. Être vrai, pour ma part, ce n'est pas aller jusque-là. Et Moïse ne va pas jusque-là. Il ne porte pas de jugement sur la volonté de Dieu. Ça ne signifie pas manquer de respect à son Seigneur. Et en tout cas, l'amitié qui nous lie à Jésus ne peut pas nous conduire à le traiter comme un homme ordinaire. Ne l'oublions pas, nous sommes les amis d'une personne parfaite, du Dieu éternel. Nous vivons dans la présence permanente d'une personne parfaite. La suite de notre passage jusqu'au verset 20. Voilà. À partir du verset 18. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Là, c'est la troisième bonne nouvelle de la journée. On y décrit ici tous les avantages qu'il y a à être les amis de Jésus. Hein, on dit qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et ces paroles ne sont pas du genre de celles qu'on conseillerait pour se faire des nouveaux amis. J'ai une brochure à la maison qui s'intitule « Comment se faire des amis ?» Voilà, le genre de conseil qu'on peut y trouver parmi les plus frappants et les plus contrastés par rapport à ce que nous lisons là. Respectez les opinions de votre interlocuteur. Ne lui dites jamais qu'il a tort. Si on met ça en parallèle avec ce que Jésus dit aux Sadducéens, par exemple, entre autres, hein, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance dans les dieux, ni la puissance de Dieu. Vous êtes grandement dans l'erreur. Ne lui dites jamais qu'il a tort. Hein, voilà. Si Jésus nous appelle à être vrai dans notre relation avec lui, à plus forte raison, lui est vrai avec nous. Et arrivé à ce stade, parce qu'ils ne peuvent plus entendre de telles paroles, beaucoup s'éloignent de Dieu, beaucoup s'éloignent de Jésus. Et Emmanuel, si tu veux lire un passage qui se trouve, pour ceux qui veulent le prendre, dans Jean au chapitre 6, à partir du verset 64. «
savait qui allait le trahir. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne lui en a pas donné la possibilité. » Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui. Jésus demanda alors aux 12 disciples, « Vous voulez partir vous aussi ?» Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous ? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous croyons, nous le savons, tu es le Saint envoyé de Dieu. » Jésus leur répondit, « Ne vous ai-je pas choisi, vous les 12 ? Et pourtant, l'un de vous est un des nôtres. »
Merci. Versets 65 et 66, c'est pourquoi je vous ai dit, nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. C'en est trop. Ils ne peuvent plus entendre de telles paroles. De telles paroles sont trop catégoriques pour trouver un écho dans les cœurs. Et de fait, si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, alors ce sont des paroles complètement déplacées pour un homme. Il devient préférable à ce moment-là de nier la divinité de Jésus et de le ranger à côté des grands hommes, à côté de Martin Luther King, Mère Teresa, Gandhi. Voilà, là ça fait bien dans le paysage. Trions dans ses paroles celles qui nous plaisent, et généralement celles qui nous plaisent, c'est celles qui sont adressées à nos ennemis. Et puis écartons celles qui nous culpabilisent et appellent à un changement de vie. Et c'est ainsi que des paroles de Jésus, qui sont même passées dans la connaissance courante, comme par exemple celle de la parabole de la poutre et de la paille, qui a été donnée pour moi, me faire m'assurer, vérifier, contrôler que je ne suis pas en train de chercher la paille dans l'œil de mon prochain, alors que moi-même, j'ai peut-être une poutre dans mon œil. Cette parole se trouve utilisée à contresens, détournée, pour se défendre, pour agresser en retour, dans le sens de « oui, tu cherches dans mon œil une paille alors que tu ne vois pas que tu as une poutre dans le tien. Hein, » Le sens est complètement retourné. Et vous remarquerez ici que, comme dans le texte de Jean au chapitre 15, dans Jean 6, c'est le même point qui fait rupture qui nous est donné. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Le même point dans les deux textes marque la rupture de ceux qui restent avec Jésus et ceux qui s'éloignent. Évidemment, l'élection n'est pas le sujet de notre réflexion d'aujourd'hui, mais il faut reconnaître aussi que c'est un point difficile qui sépare non seulement, là, dans le cas présent, les disciples du monde, mais aussi, parfois, les chrétiens se trouvent divisés entre eux sur ce point. Revenons à notre texte, si tu veux. Merci. Au verset 19. Pardon, j'ai perdu mon... Voilà. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que j'ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Voilà, Jésus redit ici où se trouve le point de rupture. Et verset 20, il nous annonce que nous ne sommes pas plus grands que notre maître et qu'à ce titre, nous porteront les mêmes persécutions. Voilà. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre. Et s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. De nouveau, un discours sans détour, un discours direct. Et enfin, la dernière partie de notre passage, à partir du verset 21, « Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me hait, hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues et ils ont haï moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Jésus nous explique ici quelle est la cause, la véritable cause de la haine des hommes envers ses amis. Ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. À travers les amis de Jésus, c'est Jésus qu'ils haïssent. Et on trouve des parallèles dans la vie courante qui montrent que c'est une réaction totalement humaine et courante. Qui se porte généralement sur toutes les personnes qui incarnent un symbole ou une autorité. Le chef, hein, sur qui on fera retomber toutes les critiques, qu'elles soient justifiées ou non. C'est bien à lui qu'on s'en prendra. Le gouvernement, bien sûr, c'est bien connu que le gouvernement est responsable de tous les malheurs de la nation. Et à ce titre, quand on a parlé de Moïse tout à l'heure, Moïse... Qui, plus que Moïse, peut en parler de ça, hein, comment il a été traité injustement, simplement parce qu'il était celui que Dieu avait choisi pour conduire son peuple. Jésus montre ici qu'en fait, il n'y a rien de nouveau. C'est quelque chose de naturel qui existe depuis longtemps. Mais on constate aussi qu'à travers les hommes qui représentent un symbole ou une autorité, ce sont bien les deux choses qui sont visées, le symbole et l'autorité. Et que la véritable cible sont eux. Jésus est en train de nous dire qu'à travers lui, à travers nous, c'est lui qui est visé. En fait, peu de personnes parlent mal de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un dire du mal de Jésus ou du mal de Dieu. Non. Moi, jamais, peut-être des exemples contraires. Moi, je pense, j'ai jamais entendu quelqu'un dire du mal de Dieu, dire du mal de Jésus. C'est une chose qu'on n'entend pas. Critiquer, par contre, et calomnier ses disciples, ça, c'est une chose totalement admise. Et nous sommes prévenus. Ça fait partie du contrat. Hein, c'est écrit là. Et au verset 23, le même principe régit la relation qui existe entre lui et son père. Celui qui me hait, hait aussi mon père. Cette parole, bien sûr, était donnée à l'attention du peuple de Dieu qui, en rejetant le Fils, rejette aussi le Père que pourtant il prétend servir. Et on peut trouver un parallèle assez saisissant avec notre situation d'aujourd'hui. Parmi les contemporains de Jésus, qui s'en prend à Dieu ouvertement? Aucun? Personne? Surtout pas. Ils s'en gardent bien, pensez-vous, hein? Tout le monde s'en garde bien pour afficher une bonne image religieuse. Mais par contre, ils n'ont aucun égard pour cet homme dont on ne connaît personne, dont on ne connaît pas grand-chose. Si ce n'est que, bon, il remet en cause l'hypocrisie générale qui règne dans les hautes sphères religieuses et semble s'attirer pas mal de sympathisants. Il ne voit là qu'un homme et ignore que ce faisant, c'est Dieu lui-même qu'il rejette. Officiellement, ils aiment Dieu et pourtant, ils haïssent et vont mettre à mort non seulement un homme innocent, pas seulement un homme innocent, mais le fils de Dieu incarné. Tout ça parce qu'à leurs yeux, ils n'ont en face d'eux qu'un homme et non pas Dieu lui-même en action. Vous l'avez sans doute remarqué, l'amour qui unit le Père et le Fils se décline du Fils vers le croyant, les croyants entre eux et jusqu'au non-croyant qu'il nous est ordonné d'aimer. Et dans l'autre sens, cette déclinaison marche aussi. Un autre passage assez parallèle à celui-ci dans Luc. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Et Paul dit aux Corinthiens, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Petite parenthèse sur la fonction d'ambassadeur. La parole d'un ambassadeur, c'est la parole d'un pays. L'ambassadeur de France, au Brésil, c'est la parole de la France qui est représentée au Brésil. Et bien recevoir un ambassadeur, ça veut dire entretenir de bonnes relations avec un pays. Maltraiter un ambassadeur, ça veut dire déclarer la guerre à un pays. Les messages des deux dimanches derniers ont été consacrés au thème « Aimer ses ennemis ». Alors, voilà ici, au cas où on manquerait d'ennemis, une formule que Jésus nous donne pour nous faire des bons ennemis, des ennemis parfaits, sur lesquels nous pourrons déverser l'amour du Seigneur. Et le message qu'ils ont besoin d'entendre, c'est celui que nous avons entendu tout à l'heure de la part de l'apôtre Paul. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et enfin, notre passage se termine par le verset 25. Cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Lequel d'entre nous peut-il prétendre être haï sans cause? Sans cause valable, hein, j'entends. Hein. Tout d'abord, comme être humain, on peut toujours avoir un doute du fait de notre imperfection. Est-ce qu'on n'a pas blessé notre interlocuteur? Est-ce qu'on n'a pas mal agi à son égard? Est-ce qu'on a été toujours conséquent dans notre témoignage? Il reste toujours un doute. Et c'est un recours que nous avons, de dire oui, bon, peut-être on est haï, mais peut-être aussi on n'a pas toujours été à la hauteur. Le sentiment d'être haï sans raison valable est un sentiment terrible, mais les incompréhensions étant inhérentes aux relations humaines, on peut toujours trouver une raison qui le rend supportable. Mais Jésus nous donne ici un recours, une autre raison qui libère notre esprit. Nous pouvons être haïs à cause de lui, si tant est, bien sûr, que nous ne nous sommes pas fait haïr par nos mauvais comportements. Seul Jésus, à la différence de nous, seul Jésus, homme parfait, fils de Dieu, a connu cette expérience d'être haï sans cause valable. Jésus s'est retrouvé seul sur la croix, seul face à la haine des hommes. On ne peut pas dire qu'il était entouré d'amis, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Insulté par son peuple, bon nombre de ses amis en fuite, entouré de soldats étrangers et païens, entre deux brigands, dont l'un certes est devenu son ami ce jour-là, mais ses amis n'ont pas été d'un grand secours pour lui. Si on veut prêter à Jésus l'intention d'être s'être fait des amis pour être sûr que de ne pas être seul au cas où ça tournerait mal, ce n'est pas tout à fait réussi. Mais la solitude de Jésus ne s'est pas limitée seulement au rejet des hommes. Sur la croix, il a aussi subi l'abandon du Père. Jamais nous ne connaîtrons le rejet que Jésus a vécu sur la croix. Jamais. Ce que Jésus a vécu, il est le seul à l'avoir vécu, et jamais nous ne le connaîtrons. Haï des hommes, qu'il a pourtant créé, abandonné du Père, auquel il a obéi en tout, jamais nous ne connaîtrons une telle solitude. Bien plus encore, c'est même tout le contraire, c'est parce que Jésus a subi le rejet des hommes et l'abandon du Père que jamais nous ne serons abandonnés. Et nous aurons toujours la possibilité et le choix de compter parmi les amis de Jésus. Pour terminer, Juste cette citation de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen.